Shalom peuple béni et précieux de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 5 et nous allons lire du verset 21 au verset 24. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement sur la marche avec Dieu. La fois passée, nous avions parlé de commencer la marche avec Dieu, et aujourd'hui, nous allons parler de voir Dieu. Lisons rapidement Genèse chapitre 5, 21 à 24. Voici ce qui est écrit. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Bien-aimés, pour rafraîchir notre mémoire, nous voulons rappeler que la fois passée, parlant de la marche avec Dieu, nous avions pris comme sous-thème « Commencer la marche avec Dieu ». Nous avions dit que pour marcher, il faut qu'il y ait d'abord un commencement, c'est-à-dire que la marche doit commencer quelque part. Et pour commencer la marche avec Dieu, nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Donc, c'est la nouvelle naissance qui est le point focal, le point de départ qui nous permet de commencer la marche avec Dieu. Et nous avions dit que nous devons décider de nous repentir et connaître la vraie conversion, sortir du monde, nous débarrasser de tout ce qui est, tout ce qui n'est pas de Dieu, afin de connaître Dieu et de marcher avec lui. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit, que nous allons parler de voir Dieu. Alors lisons ce qui est écrit par rapport à la foi d'Enoch dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 nous parle des héros de la foi. Et j'aime beaucoup ce qui est dit sur Enoch. Hébreux chapitre 11. Nous allons prendre le verset 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parût plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh bien-aimé, gloire à Dieu. On dit que Enoch était agréable à Dieu. C'est-à-dire que Enoch avait reçu l'approbation de Dieu pendant qu'il était encore sur terre. Et quand on parle d'Enoch qui reçut l'approbation de Dieu, cela me rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ aussi, à un moment donné, la voix s'était fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Frère, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. L'Église est faible aujourd'hui parce qu'on met plus l'accent sur le service. Mais nous oublions qu'avant le service, il faut d'abord commencer par l'adoration. J'aime ça. Quand le diable dit à Jésus, voici tous ces royaumes m'ont été donnés. Si tu me te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Il dit, il est écrit, tu n'adoreras l'Éternel ton Dieu lui seul et lui seul tu le serviras. Donc une véritable adoration, un véritable service doit commencer par l'adoration. S'il n'y a pas adoration, il n'y aura pas de service. Voilà pourquoi, même au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'a pas commencé par travailler, mais l'homme a commencé par se reposer. L'homme a commencé par adorer Dieu. L'homme a commencé par contempler Dieu, à voir Dieu avant d'aller dans le service. Le problème avec l'Église aujourd'hui, que plusieurs vont, courent, ils veulent servir, ils veulent aller, mais ils n'ont jamais vu Dieu. Souvenez-vous de Pierre. Pierre avait peur, il était avec le Seigneur, il avait peur. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le même Pierre pouvait dire au Sanhédrin, personne ne pourra nous empêcher d'annoncer des choses que nous avons vues et entendues. Bien aimé, il faut voir et entendre. pour que notre témoignage soit vrai. Toi-même, tu n'as pas vu, tu veux courir. Souvenez-vous d'Achimat et Couché. La Bible dit qu'il y avait deux de ses serviteurs qui avaient l'habitude d'aller annoncer les nouvelles. Alors Joab avait tué le fils de roi. Et la Bible dit, Achimat se présenta devant Joab pour dire, laisse-moi courir, annoncer la bonne nouvelle au roi. Oh, Joab a dit à cet homme, cette nouvelle ne te sera pas profitable. Ce n'est pas à toi d'aller annoncer la nouvelle aujourd'hui. Parce que toi, tu n'as rien vu, tu as seulement entendu. Bien-aimé. Mais lorsque Joab a dit à cet homme-là que tu ne peux pas courir, il dit, quoi qu'il arrive, je vais courir. Et il a pris, bien-aimé, le raccourci pour vite arriver. Mais comme Couchi arrive, Couchi, bien-aimé, n'avait pas demandé à Joab de l'envoyer. Mais c'est Joab qui l'a appelé afin de l'envoyer. Il dit, va, dis au roi ce que tu as vu. Alléluia. Toi, tu n'as pas vu la mort du fils du roi. Tu n'as pas vu la croix. Tu vas annoncer quoi? Tu étais à l'école biblique. Tu as eu un master en théologie. Tu vas annoncer quoi, frère? L'église est faible à cause de toutes ces choses. Parce que, frère, auprès des hommes, nous recevons des informations. C'est seulement auprès de Dieu qu'on peut recevoir la révélation. Oh, Jésus a posé la question aux disciples. Qui dit-on que je suis? Oh, certains disent que tu es Moïse, d'autres Jérémie, etc. Mais vous, Pierre a dit, tu es le Christ, le Saint venu. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Par conséquent, les informations viennent des hommes, mais la révélation vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Joab a dit à Couchi, va annoncer ce que tu as vu. Et lorsque Couchi est parti, regardez le message de Couchi et celui d'Achimat. Achimat était arrivé en premier, mais quand le roi lui pose la question, quelles sont les nouvelles que tu apportes? Qu'en est-il de mon fils? Il dit, j'ai vu une troupe là-bas, bon, je ne sais pas vraiment exactement ce qui s'est passé. On a mis Achimat du côté. Mais quand Couchi est arrivé, il a annoncé le message. La Bible dit, le roi a commencé à pleurer. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de pleurs dans l'église. Les gens sortent de là, vivant dans le péché, mais dans la joie. Bien-aimé, parce qu'il y a plus d'Achimat que de Couchi. Des gens qui n'annoncent pas vraiment les messages de la repentance, qui conduisent des gens bien-aimés à la repentance. Oh bien-aimé, c'est quand Jésus est rentré dans les eaux du baptême et qu'il soit sorti, la Bible dit que la voix s'est fait entendre du ciel. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous pouvons aussi, bien-aimé, recevoir le même témoignage si nous passons par le vrai baptême, comme nous l'avons expliqué la fois passée. Nous recevons l'approbation de Dieu quand nous acceptons de mourir par rapport à nous-mêmes. C'est là que nous recevons l'approbation de Dieu. Ce n'est pas lorsque bien-aimés nous prêchons, c'est bien de prêcher, ou de chasser les démons, de guérir les malades. Tout ça, c'est bien. Jésus a dit que vous chasserez les démons. Mais bien-aimés, l'approbation de Dieu, c'est lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance. Et nous avions dit que la nouvelle naissance, le baptême extérieur, est la manifestation du véritable baptême qui s'est passé à l'intérieur, qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Lorsque nous prenons l'engagement de quitter le monde, de quitter le système du monde, je ne parle pas de quitter la chair, faites attention. Ne va pas te suicider pour dire que le prédicateur avait dit quitter le monde, donc je me suicide pour déjà quitter. Non, le monde ici c'est le système, la philosophie du monde. J'accepte le Seigneur dans ma vie et je décide de me séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu et de marcher avec Dieu. Mais la Bible dit d'Enoch, c'est par la foi qu'Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'enleva. Lesquels vont connaître l'enlèvement? C'est ceux qui marchent avec Dieu. Nous verrons ça plus tard. C'est ceux qui marchent avec Dieu qui expérimenteront, bien-aimés, ce phénomène qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais pendant qu'il marchait sur terre, Dieu avait déclaré qu'Enoch était agréable à lui. Dieu avait trouvé son plaisir dans la vie d'Enoch. Mais la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, premièrement, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh bien-aimé, c'est là le problème. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu existe? Et le Dieu que nous croyons exister, c'est quel Dieu qu'on nous a présenté? De plus en plus, on nous présente un Dieu gendarme, hein? Un Dieu qui ressemble à un roi, un tyran qui n'a pas pitié de ses sujets, qui n'est pas toujours satisfait, un Dieu qui n'est pas toujours content de nous. Non, c'est un Père. Le Christ est venu pour nous révéler Dieu comme Père. Donc, voir Dieu, c'est de le connaître comme Père. C'est ça le royaume des cieux. La Bible dit la vie éternelle. C'est de le connaître, lui, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Bien aimé, marcher avec Dieu, nous devons le voir. Et si nous n'avons pas vu, bien aimé dans le Seigneur, notre marche sera instable. Nous marchons tout le temps, bien aimé, dans les inquiétudes et la peur. Nous marchons, bien aimé, tout le temps dans la confusion. Et bien aimé, nous serons toujours dans l'insécurité. C'est ce que David avait compris Psaume chapitre 116, hein? Non, Psaume chapitre 16, lorsqu'il dit « J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux ». Lisons un peu ça. Le livre des Psaumes, Psaume chapitre 16, je crois que c'est à partir du verset 7, 7 à 9. La Bible dit ceci. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sûreté. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » C'est-à-dire, voir Dieu, c'est comprendre que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu circonstanciel. Aujourd'hui, l'Église présente un Dieu circonstanciel. Voilà pourquoi dans certaines églises, il y a des canevas pour conduire le culte. On dit quand vous vous retrouvez, vous commencez par remercier. Après, vous devez demander pardon, même si vous n'avez pas péché. Ah, il y a des versets, bon, la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est lui-même. Donc, demande seulement pardon pour des péchés que tu n'as pas fait, que tu n'as pas fait, dont ta conscience ne te reproche de rien. Demande pardon. Et après, après avoir demandé pardon, vous allez invoquer le sang de Jésus. Je ne sais pas d'où les gens ont pris ça. Les gens invoquent le sang. Après avoir invoqué le sang, d'autres invoquent l'eau. Après l'eau, on invoque le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, on invoque les feux et on commence à chercher les démons. Bien-aimés, d'où viennent toutes ces choses-là? Vous invoquez le sang de Jésus. On invoque le sang sur l'église, sur les chaises, sur notre corps et même certains sur la nourriture. D'où viennent toutes ces choses? Lisez les Écritures, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Est-ce que les apôtres invoquaient-ils le sang sur la route avant de voyager? La Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les délivrer du danger. » C'est tout. Nous invoquons le nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus. Les apôtres n'ont jamais commencé à crier « Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. » Bien aimé, faisons très attention avec toutes ces doctrines présentées aujourd'hui. On nous présente un Dieu circonstanciel. À chaque réunion, on doit demander le Saint-Esprit. Si nous avons deux réunions de prière, la première réunion, vous demandez l'Esprit, et la seconde réunion, vous demandez encore l'Esprit. Donc, comme si l'Esprit de Dieu venait seulement au moment où nous avons besoin de lui dans le culte, après le culte, il s'en va. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient du genre, disant, Seigneur, tu as commencé avec nous comme oméga, et maintenant tu as, comme alpha, maintenant tu as fini comme oméga. Nous prenons congé de toi. C'est ce qu'en fait les gens disent, nous prenons congé, à la prochaine culte nous allons t'inviter. Voilà pourquoi de plus en plus des hypocrites, des gens qui pensent que Dieu se trouve à l'église, ou Dieu se trouve au milieu des frères. Quand ils ne sont pas là où il y a des chrétiens, ils mènent une autre vie, et là où, lorsqu'ils sont au milieu des gens qui croient au Seigneur, ou encore des frères, c'est une autre vie. Des hypocrites, parce qu'on croit que c'est un Dieu circonstanciel. Frère, le Dieu que nous prions, il est omniprésent. Il est partout. Et la vraie religion, c'est lorsque les hommes ne sont pas autour de nous. Nous devons marcher avec lui, partout et dans tout ce que nous faisons. Pas seulement à l'église. La Bible dit, par exemple, que votre douceur soit connue de tous. Nous voyons des hommes très méchants, très durs envers leurs femmes à la maison. Mais quand ils sont à l'église, ils sont doux. Des femmes douces au niveau de l'église, qui parlent en langue, qui sont douces au niveau de l'église, mais quand tu arrives à la maison, très impolis envers leur mari, dur de caractère, ou même dur envers ceux qui travaillent avec lui. Faisons très attention. Nous devons voir Dieu partout. Nous devons savoir que le Dieu avec qui bien aimé nous marchons, c'est un Dieu qui ne nous laisse pas. On n'a pas seulement besoin de lui pour le culte, mais il est partout avec nous. Et c'est ce qui apportera, bien aimé, la sécurité. On a vu ça avec David. Il dit, j'ai constamment les yeux sur l'Éternel. Partout, bien aimé, David savait que Dieu était avec moi. Voilà pourquoi il pouvait dire, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. David était berger. Il savait, il connaissait le cœur du berger envers ses brebis. Et l'Éternel est notre berger. Les bergers de ce monde, quelquefois, bien aimés, ils peuvent sommeiller, dormir. Mais lui ne sommeille ni ne dort. Voilà pourquoi il ne peut pas, il ne peut jamais nous laisser. Le Dieu que nous servons, frère, nous devons le voir. Tu dois expérimenter cela. Avoir la notion, bien aimée, du monde invisible. Avoir la notion, bien aimée, du Seigneur qui est avec toi. Malheureusement, plusieurs n'ont pas cette notion. On est un peu comme le serviteur d'Élisée. La Bible dit lorsque il a vu une troupe syrienne, il a eu peur. Il dit à mon Seigneur, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'Élisée va dire? Il dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria l'Éternel pour le délivrer de l'aveuglement. Il dit, Dieu, il dit, Seigneur, l'Éternel, ouvre ses yeux. Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu une montagne, la montagne pleine de chars et de feu. Vous voyez? Il y avait une montagne pleine de chars. Ils étaient environnés, bien-aimés, une puissance militaire compliquée, mais lui ne savait pas. Parce qu'il n'avait pas la notion, bien-aimé, de l'invisible. Frère, la Bible dit, si quelqu'un a la foi, il doit premièrement croire que Dieu existe. Et le Dieu qui existe, il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Il contrôle toutes choses. Il n'est jamais surpris. Donc, voir Dieu, c'est savoir que, bien-aimé, Dieu est là avec nous. On n'a pas besoin d'un certain nombre de signes. Nous croyons simplement par la foi, nous croyons que Dieu est là. Et plus nous croyons cela, nous croyons que Dieu est là. Cela va aussi changer notre mode de vie. Qu'est-ce que je veux dire? Si je vois Dieu, je sais que Dieu est là, tout ce que je ne peux pas faire devant mon frère, je ne pourrai pas le faire, même si je suis seul. En effet, je sais qu'il est là, il marche avec moi. Avant même de suivre quelque chose à la télé, avec mon téléphone ou l'ordinateur, je dois me poser la question, si Jésus était là, est-ce qu'il aurait suivi la même chose? Avant de dire quelque chose, je dois me poser la question, si Jésus était là, est-ce que je dirais la même chose? Et cela va libérer plusieurs personnes de la calomnie. Vous voyez, deux frères rassemblés, calomnier un autre frère. Frère, c'est, si ce que tu dis de ton frère, un autre frère, tu ne peux pas le dire devant lui, alors ne le dis pas. Parce que le Seigneur Jésus est là et il vous écoute. Nous devons expérimenter, bien aimé, l'omniprésence de Dieu pour bien aimé vivre l'omnipotence de Dieu. Plusieurs veulent vivre l'omnipotence de Dieu, mais ils ne croient pas à l'omniprésence de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez certains prédicateurs, avant de prêcher, ils disent on va chanter une chanson qui va nous conduire dans la présence de Dieu. Ok, dans la présence de Dieu, mais dans quelle présence étiez-vous avant? Ce n'est pas une chanson qui va vous emmener dans la présence de Dieu, c'est peut-être émotif. Il y a des chansons qui peuvent attiser vos émotions, hein, vous rendre un peu plus libre, souple dans l'esprit, mais sachez que Christ est là. Il est là avec vous. Il dit, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Mais c'est des choses que nous devons comprendre. Il est là avec nous. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui marche avec nous. C'est ce que l'apôtre Paul écrit. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Dans l'ancienne alliance, on l'a connu comme le Dieu Tout-Puissant qui était au-dessus de tous. Mais il est venu comme Emmanuel au milieu de nous. Lorsque la parole s'est faite chair, quand Christ était sur terre parmi nous. Mais maintenant, il est en nous. C'est-à-dire que la relation est même plus proche. Il est plus proche que le mot proche, bien-aimé. Il vit en nous. Si dans l'ancienne alliance, l'Esprit utilisait des gens pour des moments spécifiques, mais dans notre dispensation, l'Esprit a trouvé sa demeure en nous. L'Esprit vit en nous parce qu'elle dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous devons le voir en esprit. Hein, ne pas être comme Jacob. Vous vous rappelez de Jacob? Il arrive à Luz. Alors qu'il dormait, il a eu une vision dans laquelle il voit une échelle qui partait de la terre au ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient. Il dit, waouh, ça c'est la maison de Dieu, je ne savais pas. Et regardez ce qui est écrit là-bas dans Genèse chapitre 28, verset 20 au verset, je crois, 22, la Bible dit que Jacob fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu me donnes à manger, si tu me donnes à boire, si tu me donnes des habits, alors l'Éternel sera mon Dieu. Oh, bien-aimé, dit, je te donnerai ma dîme. Voilà l'attitude de plusieurs chrétiens. C'est-à-dire que pour eux, la divinité ou la relation avec Dieu consiste à ce que Dieu lui donne des choses. Et des choses matérielles, le manger, la nourriture, là, c'est la nourriture, les habits, la protection, ça s'arrête là. Jacob était bébé spirituel. Et si, bien-aimé, tu agis comme ça, sache que tu es encore bébé spirituel. Même si tu es prédicateur ou pasteur, ou si ton pasteur n'insiste que sur ces choses, sache qu'il est encore bébé spirituel, quel que soit le nombre d'années qu'il a connu dans le Seigneur. Mais quand Jacob est parti, alléluia, il arriva bien-aimé chez Laban. Après avoir eu tous ses enfants, pendant qu'il revenait, il apprit que son frère Ésaü venait le frapper, venait à sa rencontre avec une grande colère. La Bible dit que Jacob resta seul. Il était où? À Peniel. Peniel qui signifie la face de Dieu. Lorsque Jacob a vu Dieu, ses désirs changea. Lorsque Jacob a vu Dieu, sa pensée fut renouvelée. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Oh, Jacob. Mais pour toi, la bénédiction, c'était la maison, la voiture. Mais Jacob avait toutes ces choses. Il avait des enfants. Il avait des serviteurs, des servantes, des bœufs bien-aimés, des troupeaux. Mais bien-aimés, Jacob a compris que la vraie bénédiction, ce n'est pas ça. Comme dit Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Jacob avait compris. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Mais comment Jacob a été béni? La Bible dit, l'homme lui posa la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, oui, tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom sera Israël. Jacob signifie usurpateur, vaincu par le péché, voleur. Mais cette fois-ci, tu changes d'endroit. Tu changes de côté. Tu n'es plus Jacob, tu es devenu Israël qui signifie prince de Dieu, qui signifie vainqueur. Tu étais vaincu par le péché, maintenant tu es vainqueur sur le péché. Voilà la vraie bénédiction. Lorsque nous quittons le péché pour vivre la sainteté, frère, Jacob était béni parce que Jacob a vu Dieu. Personne ne peut le voir et demeurer la mère. Les gens viennent dans les églises, on leur fait des prières, ils tombent. Et ces gens-là croisent des hommes, ils ne croisent pas Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Jacob continua ses marches, là où, bien-aimé, il avait nommé Bethel, quand il arriva à ce lieu, il nomma ce lieu El Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. El Bethel signifie le Dieu de la maison de Dieu. Là, Jacob avait eu la révélation du Dieu de la maison de Dieu. Avant, Jacob voyait simplement l'église. Mais là, Jacob a vu le Dieu de l'église. Et c'est cette dimension-là, bien-aimé, que nous devons atteindre. Arriver, bien-aimé, à le voir. Et c'est ainsi que, bien-aimé, nous serons stables dans notre foi et nous marcherons avec Dieu. Car si nous ne voyons pas Dieu, nous aurons peur, bien-aimés, du monde. Nous aurons peur des rois de ce monde et nous ne pourrons pas marcher avec Dieu. Lisons un peu ce qui est écrit par rapport à Moïse, par rapport à la foi de Moïse. Puisque nous avons dit qu'il faut voir Dieu. En tout cas, il y a tout un enseignement, je crois, une série de 6 ou 7 messages comme ça. Il parle de marcher avec Dieu. C'est là-bas que, bien-aimés, il y a plus de détails. Je ne sais pas si ça a été enregistré par WhatsApp, si nous avions encore ces messages, parce que je pense que ça remonte à 2 ans. Bref, prenons Hébreux chapitre 11, du verset 23 jusqu'au verset 27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Écoutez bien le verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Frère, qu'est-ce que tu vois? Christ a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil fonctionne bien, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil ne fonctionne pas bien, tout ton corps sera dans les ténèbres. Moïse voyait celui qui était dans l'invisible. Il considéra l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Frère, à l'époque, je voulais vous rappeler ici qu'à l'époque, l'Égypte était bien aimée la première puissance mondiale dans tous les domaines. Et Moïse n'était pas un simple citoyen. Il était bien aimé, un roi, un prince potentiel. Il a vécu dans la maison de Pharaon. On le préparait pour être prince. Il devait bien aimé profiter de toutes ses richesses. Mais comme Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération, la vraie rémunération, il a vu le propre Christ, les souffrances de Christ, comme bien aimé une grande richesse par rapport au trésor de l'Égypte. Et c'est comme ça qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé par l'ordre du roi. Et la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il quitta l'Égypte. L'une des choses qui marche, bien aimé, la maturité spirituelle, c'est lorsque nous acceptons de quitter l'Égypte. Quand vous voyez quelqu'un être dans le Seigneur, mais toujours avoir l'habitude de l'Égypte, du monde, marcher comme ceux du monde, aimer les choses du monde, comprenez que cette personne n'est pas mature. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse avait vu. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois qui va déterminer, bien-aimé, ta marche avec Dieu. Il avait vu les trésors, il avait vu celui qui était invisible. C'est là où l'apôtre Paul le dit. Nous ne fixons pas nos regards sur les choses passagères. Regardez, alléluia. Lisons un peu 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 16 au verset 18. J'aime ça, frère. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont quoi? Éternelles. Vous voyez? Les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. C'est très important de comprendre cela. Aujourd'hui, plusieurs courent après les choses visibles, parce qu'on leur prêche les choses visibles. Or, Paul a dit qu'on a 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. Si c'est de cette vue seulement que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons voir Dieu. Celui qui a vu Dieu connaît le repos. Celui qui a vu Dieu connaît la stabilité. Celui qui a vu Dieu ne va plus courir après les choses de ce monde. Celui qui a vu Dieu, même si son corps se détruit, bien-aimé, il aura de l'assurance. Nous allons lire un autre passage pour atterrir. Dans Psaume chapitre 73, c'est le psaume des fils d'Azaph. Du verset 25 au verset 26. La Bible dit ceci. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi. Bon, on peut s'arrêter là. Il n'y avait que Dieu seul. Dieu était son tout. Frère, quand tu arrives à voir Dieu, tu vas considérer toutes choses comme de la boue, comme a dit Paul dans Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens chapitre 3, Paul présente les avantages du siècle présent, la position du siècle présent, qui est devenue quelque chose aujourd'hui pour plusieurs, hein, avoir une position dans la société, être renommé, etc. Paul dit, j'ai considéré toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. Quand il a vu Christ, il a compris que toutes ces choses-là n'avaient pas d'importance. Bien-aimé, aussi longtemps que Dieu ne devient pas ton tout et qu'il y a encore des choses dans ta vie qui ont de la place pour Dieu, qui prennent de la place dans ton cœur, Dieu ne pourra jamais être ton tout et par conséquent, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, Dieu doit être le tout de ta vie. Dieu ne doit pas seulement être le moyen. Aujourd'hui, Dieu est devenu le moyen pour plusieurs, pour obtenir des choses. Mais Dieu doit être, bien-aimé, le but à atteindre, le centre de notre vie, la raison de notre vie. Doit être Dieu, car il est écrit au commencement Dieu. Dieu doit être le tout de notre vie. Voilà pourquoi prions que Dieu nous donne la capacité de le voir, de le voir au-dedans. Et cela apportera, bien aimé, la stabilité, cela apportera la paix, cela apportera la fermeté, car il était dit, il est écrit par rapport à la fin des temps que le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Quand nous voyons des gens comme Meshach, Shadrach et Abednego accepter d'être jetés dans le feu, c'est parce qu'ils connaissaient Dieu. Si nous voyons des gens comme Daniel accepter d'être jetés dans la fosse de lion, c'est parce qu'ils connaissaient Dieu. Nous sommes en train d'atteindre, bien-aimé, la fin. Et par rapport à la fin, le Seigneur Jésus a dit que vous serez persécutés. Mais si nous ne voyons pas Dieu, nous allons céder. Mais si nous le voyons, nous n'allons pas céder. Parce que, bien aimé, il est avec nous. Étienne était lapidé alors qu'on le lapidait. Parce qu'il voyait déjà Dieu pendant qu'il marchait avec lui dans l'invisible. Lors de sa mort, il a vu le Seigneur à la droite du Père. Voilà pourquoi il était capable de prier même pour ceux qui le maltraitaient. Parce qu'il le voyait. Il savait que Dieu était avec lui. Que Dieu nous aide à le voir et à marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.